Avant Amir Aslani.
Bonjour monsieur.
Vous êtes avocat, essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez publié notamment La Turquie, nouveau califat aux éditions de l'Archipel. Est-ce que l'opposition à Erdogan se réveille ce matin avec la gueule de bois?
Pour moi, c'est incontestable. Tous les analystes les donnaient gagnants. Une victoire dès le premier tour. Mais on constate effectivement qu'il n'y a pas eu que des critères économiques qui ont pesé dans la balance. Les arguments d'Erdogan au niveau de la position de la Turquie dans la communauté internationale, l'industrie de l'armement, le nationalisme, le pan-turquisme, l'importance qu'il accorde à l'islam comme fait de gouvernance dans la société, ont pesé également dans ces élections.
Ça veut dire que les critiques récurrentes sur son autoritarisme, sur sa pratique autocratique du pouvoir, n'ont pas ou peu d'écho au sein d'une grande partie de la population turque aujourd'hui ?
Un certain écho incontestable, puisqu'il est en ballotage, c'est la première fois. Erdogan est une bête politique, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, il a gagné 14 élections régionales et nationales. Le candidat de l'opposition, M. Kılıçdaroğlu, n'a jamais été élu à qu'une fonction, c'est un haut fonctionnaire. Et Erdogan a une base électorale particulièrement fidèle. Des personnes, si vous voulez, qui ne regardent pas l'avenir de la Turquie exclusivement à travers le prisme économique. On le voit bien. Malgré un tremblement de terre abominable, une gestion totalement grossière de la situation par Erdogan, malgré une inflation à 60%, baisse des investissements étrangers, la position de la Turquie est radicalisée à l'échelle internationale, Erdogan arrive quand même en tête des listes avec presque 5 points d'écart avec le candidat de l'opposition. Il y a un troisième candidat qui s'appelle Sinan Ogan.
C'est candidat nationaliste, qui a fait 5% des voix.
Ultra-nationaliste, il s'attribue lui-même 5% des voix. Il est à la tête d'une confédération de trois partis politiques anti-immigrés globalement. Et la dernière fois, ils se sont alignés du côté d'Erdogan. Il n'y a aucune chance qu'il fasse autrement cette fois-ci.
Donc il va probablement appeler à voter pour Erdogan ?
Il va sûrement appeler à voter pour Erdogan. Parce qu'Erdogan incarne quand même, malgré son côté islamiste, un côté nationaliste incontestable.
Il reste, semble-t-il, parce qu'on a assez peu de détails sur les bulletins qui ne sont pas encore dépouillés, mais nos envoyés spéciaux sur place nous disent qu'il reste des millions de bulletins qui n'ont pas encore été dépouillés. Ceux des Turcs de l'étranger sont-ils traditionnellement plutôt favorables ou plutôt défavorables à Erdogan ?
Si vous avez par exemple 3 700 000 Turcs en Allemagne, un petit million en France, globalement, de manière incontestée, ils emportent leur adhésion vis-à-vis de Erdogan. On est à 65 à 70% de vote en faveur de l'Erdogan. Donc l'étranger turc vote pour Erdogan, c'est un fait.
Donc tout ça fait assez clairement d'Erdogan l'immense favori du second tour. A priori, est-ce que l'opposition peut encore inverser la tendance ?
Je ne le pense pas. À moins qu'il y ait un événement majeur qui soit de nature à bouleverser la donne, Erdogan est parti pour être réélu. 5 points d'écart, c'est quand même difficile à attraper. Surtout que le camp de l'opposition a fait vraiment une collection complète de tous ceux qui étaient contre Erdogan.
Il n'y a pas de réserve.
Il n'y a pas de réserve. Et puis ces élections-là, si vous voulez, se présentent non pas comme une élection quelconque sur les économique, mais un véritable référendum sur la personne d'Erdogan. Est-ce qu'on veut un régime présidentiel relativement autoritaire ou est-ce qu'on veut un pouvoir démocratique à l'européenne ? C'est un référendum majeur à cette date anniversaire qui célèbre le centenaire de la République turque. Erdogan, c'est l'anti-Atatürk. Atatürk a créé la Turquie pour que la Turquie devienne un pays séculier, laïque, avec une vision pro-européenne.
Justement, quel a été le poids de la religion et de l'islam dans ce scrutin et dans son résultat ?
Erdogan a trois arguments majeurs pour lui qui ne cessent de développer. D'abord et avant tout, l'importance de l'islam, chose qu'Atatürk avait essayé de balayer. Cet islam, ça se manifeste ne serait-ce que dans la rue. Je me souviens, il y a 40 ans, quand je suis allé pour la première fois en Turquie, place Taksim, qui est une place emblématique à Istanbul, il n'y a pas une seule femme avec foulard. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule femme qui ne porte pas le foulard. Eh bien, ce côté islamique se traduit également au niveau des nominations. En 2016, quand il y a eu le coup d'État avorté à l'encontre de la personne d'Erdogan, Erdogan a profité de la situation pour désigner à des fonctions de responsabilité dans les armées, dans la justice, à l'université, au sein des médias, les personnes qui sont inféodes à sa pensée idéologique ou qui relèvent de son camp.
Erdogan a dit cette nuit qu'il respectera le résultat des urnes lors du second tour. Il y a quelques jours, l'un de ses ministres mettait en garde contre, je cite, un coup d'État ourdi par l'Occident lors de ce scrutin. Que ferait-il, Erdogan, s'il était battu dans 15 jours ? Est-ce qu'il peut être le Trump turc ?
Il peut parfaitement l'être, mais je crois que le simple fait qu'il ait reconnu que pour le cas où les institutions, les élections devaient donner raison au camp de l'opposition, il allait se retirer, prouve qu'il se voit déjà gagnant.
Mmh. C'est pas le genre de marabout. C'est plus facile de reconnaître quand on est
bien
en tête.
Sûr. Ouais. J'ai toujours cru que même s'il devait perdre les élections, c'est pas pour autant qu'il perdrait le pouvoir. Et puis c'est un homme qui raisonne, si vous voulez, en termes de conflit et de cabale. Hier, il avait dit que c'est Biden, le président américain, qui avait appelé à un vote massif contre lui. Donc c'est quelqu'un qui se voit déjà reconduit pour un autre mandat.
Les relations entre la Turquie et l'Europe se sont tendues ces dernières années. Erdogan a régulièrement menacé de ne plus accueillir les 5 millions de réfugiés syriens qui sont en ce moment sur le sol turc. Qui est-il aujourd'hui pour l'Union européenne ? Un allié ou une menace ?
Sûrement une menace. Si vous voulez, Erdogan est convaincu de l'importance de la Turquie, du renouveau de la Turquie, avec un regard fantasmé sur le passé de l'Empire ottoman. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui est membre de l'OTAN, certes, mais tous les jours, l'aviation turque a des heurts avec l'aviation grecque. C'est quelqu'un qui insulte la personne du président de la République française. C'est quelqu'un qui ordonne à sa marine d'illuminer, c'est-à-dire de pointer ses canons sur un bâtiment français qui exerce sa mission dans le cadre d'une mission de l'OTAN. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui a une vision particulièrement pragmatique sur la situation, ne serait-ce que sur le cas de l'Ukraine. Il considère que la Turquie devra avoir son mot à dire sur la question des Tatars en Crimée. C'est quelqu'un, si vous voulez, aujourd'hui, qui ne cesse d'avoir recours à des chantages, notamment sur la population des réfugiés sur son territoire, en faisant payer l'Union européenne.
Franchement, il a réussi à faire à l'Union européenne à verser 6 milliards d'euros pour qu'il reste.
Il a arrêté la démarche vers l'Ouest pour entamer un virage à l'Est, toute.
Merci à vous, Ardavan Amir Aslani.
Merci
de m'avoir
invité.
Vous êtes avocat, spécialiste du Moyen-Orient, grand témoin de France Info, votre dernier livre, La Turquie, nouveau califat, publié aux éditions de l'Archipel. Bonne journée à vous.